Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'armée de terre, de ses transformations et de ses perspectives, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill. Donc bonjour et merci de nous accueillir aux Invalides pour cet enregistrement et bienvenue dans Le Collimateur.
Bonjour.
Alors, évidemment, l'armée de terre est dans une phase particulière en ce moment, de montée ou de remontée en puissance et de transformation à la fois de ses matériels, de ses fonctionnements et de ses objectifs, et on va largement en parler. Mais avant tout, j'aurais aimé commencer par aborder un peu votre carrière, puisqu'on a ici le temps et la place pour le faire, et puis parce que c'est toujours très instructif, une carrière dans l'armée de terre sur plus de 3 décennies. Ça dit des choses sur l'institution, et puis ça en dit aussi nécessairement sur le chef d'état-major que vous êtes désormais. D'autant que vous êtes parfois trouvé dans des postes très stratégiques à des moments charnières de l'histoire récente de l'armée de terre. Mais il faut peut-être donc commencer par le commencement. Général, quand est-ce que vous vous êtes dit que vous vouliez devenir militaire ?
Je crois que je me suis dit que j'allais devenir militaire quand j'étais très jeune. Alors je suis fils de militaire. Voilà, je pense que comme beaucoup de jeunes, dès lors que ses parents sont heureux dans le métier qu'ils exercent, assez naturellement, c'est la première tentation, c'est la première voie qu'on suit. Et moi, ça a été mon cas. Et puis finalement, c'est quelque chose qui a été maturé progressivement, notamment à travers des préparations militaires, pour me dire, est-ce que c'est un fantasme, est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment.
Et c'était quoi des préparations militaires?
Alors une préparation militaire, c'est un stage qui est proposé par les armées et qui permet de faire les premiers pas de militaire, la formation vraiment initiale et de base de militaire. Moi, j'ai fait une préparation militaire supérieure qui est donc une bonne façon de se confronter à la réalité de l'état militaire par rapport à quelque chose qui peut toujours, même si c'est un peu connu, etc., qui peut toujours être fantasmé vu de l'extérieur.
Ça a toujours été l'armée de terre? Ça aurait pu être autre chose?
Alors, c'est très personnel comme question, mais il se trouve que je vois très mal. Donc, je pouvais être ni pilote, ni même en passerelle, chef de car dans la marine. Finalement, c'est là aussi quelque chose que j'ai progressivement consolidé comme démarche. Et ce qui m'intéressait tout particulièrement dans le côté armée de terre, c'était le côté commandement des hommes, proximité des hommes, humain du commandement. C'est pas que cette dimension n'existe pas dans l'armée de l'air ou la marine, mais je pense qu'elle est particulièrement présente dans l'armée de terre. Et c'est aussi la raison pour laquelle, dans le choix des armes au sein de l'armée de terre, entre cavalerie, infanterie, artillerie, génie, logistique, etc., je me suis plus directement dirigé vers l'infanterie, qui me semblait être l'arme dans laquelle il y avait le plus de contact avec les hommes. Et là aussi, j'ai consolidé cette démarche progressivement, et c'est ce que j'ai choisi à la sortie de Saint-Cyr, puisque j'ai fait Saint-Cyr. Donc dès lors que j'avais confirmé que je voulais devenir militaire, j'ai eu, comme j'avais la chance d'aimer l'école, de pouvoir faire une préparation scientifique, de passer le concours d'entrée à Saint-Cyr et de rentrer à Saint-Cyr.
Alors, donc, il y a la scolarité à Saint-Cyr, effectivement, ensuite il y a le choix des armes, il y a l'infanterie donc, et plus particulièrement les troupes de marine. C'est intéressant les troupes de marine, parce que c'est donc dans les années 90, c'est pourquoi Pourquoi spécifiquement les troupes de marine à ce moment-là? Quelle était l'idée?
Spécifiquement les troupes de marine en 1990, quand je suis sorti de Saint-Cyr, c'était l'aventure. C'était le service outre-mer. La propre des troupes de marine, en principe, c'est de servir hors de métropole, en famille, c'est-à-dire pour des séjours un peu longs, hors de métropole, c'est-à-dire outre-mer, ou à l'étranger. Et c'est vraiment cette dimension qui m'attirait à ce moment-là, même si en 1990, c'était aussi la bascule de la fin de la guerre froide, et qu'il y avait donc dans l'armée de terre française ces deux grandes masses, le corps de bataille, qui faisait face à l'Est et qui se préparait à faire face à une invasion du pacte de Varsovie, une armée plutôt d'appelée, et puis cette force d'action rapide, plutôt des forces professionnelles déjà qui étaient engagées à l'extérieur. Et ce choix des troupes de marine était donc à la fois ce côté aventure et un peu aussi ce côté force professionnelle, même si paradoxalement, dans mes premières années dans les troupes de marine, j'ai pu servir avec des appelés, notamment en Polynésie française, où j'ai été affecté pendant 2 ans. Une expérience tout à fait enrichissante d'encadrement de jeunes appelés polynésiens, des Français des Antipodes, qui m'a beaucoup, beaucoup apporté, très intéressant.
On reparlera de l'encadrement, parce que c'est quelque chose qui caractérise votre parcours d'une manière plus générale, mais... Donc les troupes de marine, c'était la possibilité d'être déployées, d'être envoyées en OPEX, qui paradoxalement ne vont pas manquer pendant les années 90. Alors je peux mentionner que vous avez notamment été déployé en Afrique, au Tchad, aussi en Bosnie, en Albanie ensuite. On ne va pas faire toutes les années 90 parce qu'elles sont chargées notamment pour vous, mais à quel moment qu'est-ce que vous considéreriez comme votre baptême du feu dans ces années 90? Quel est le moment où quel est le moment où ça s'est concrétisé pour vous?
Moi, le baptême du feu, il est en fait pour moi, je dirais qu'il a été progressif dans le sens où j'ai fait un certain nombre de missions initialement. Par exemple, ma première mission extérieure c'était au Tchad, pour laquelle j'ai approcher le feu sans être forcément engagé avec mon unité sous le feu, mais d'ores et déjà dans des situations tendues, et que finalement cette avancée progressive au cours des différentes missions a été à chaque fois une expérience extrêmement riche, notamment compte tenu du fait que j'ai eu la chance d'être au contact de soldats qui avaient, eux, cette expérience du feu, et que mes adjoints successifs ou mes chefs de groupe ou mes soldats parlaient de cette expérience qu'ils avaient eue.
C'était quoi leur référence?
Moi, j'ai été affecté au 3e, enfin, mon première affectation, c'était au 3e régiment d'infanterie de marine, à Vannes. Quand je suis arrivé au 3e régiment d'infanterie de marine, en 1991, tous mes soldats rentraient de la guerre du Golfe. Ils avaient été dans cette première guerre du monde moderne, on ne le savait pas encore à l'époque, du basculement post-guerre froide de cette guerre du Golfe, dont on a peut-être oublié aujourd'hui à quel point elle avait été un moment très fort pour les soldats qui avaient été engagés là-bas. Menaces chimiques, ils étaient en permanence en alerte pour passer avec leur protection chimique. Des mariages à distance, parce que on ne savait pas ce que... Enfin, ils pensaient qu'ils allaient vraiment au combat. Il se trouve que finalement, compte tenu de la préparation des feux, de l'engagement préalable des forces aériennes, d'artillerie, etc., au moment où ils se sont élancés à l'offensive, très rapidement, ils ont constaté qu'ils débordaient largement l'adversaire et que finalement cet adversaire se rendait. Mais voilà, ces soldats que je commandais avaient cette expérience et puis d'autres expériences préalables. Et pour répondre à votre question sur le baptême du feu un peu progressif, c'est que cette transmission de l'expérience collective au sein des unités, et je pense que c'est une réalité aujourd'hui, en tout cas ça l'a été pour moi, est une forme d'acculturation préalable des chefs, même des jeunes chefs. Moi, jeune lieutenant, et je pense que c'est le cas aujourd'hui des lieutenants qui arrivent dans le régiment, j'étais vraiment parmi les plus jeunes en âge, en tout cas, et en tout cas vraiment le plus jeune en service. Tous mes soldats avaient une expérience bien plus importante que la mienne. Et puis après, au cours des missions successives, j'ai été moi-même sous le feu autant en tant que visé, sous le feu en tant que commandant la riposte, etc., sur mes différentes missions successives. Et finalement, je me rends compte qu'évidemment, c'est une expérience à chaque fois tout à fait particulière, mais que cette sédimentation de l'expérience collective, elle est importante.
Et c'est fascinant parce que c'est un peu le mystère du commandement sur lequel vous avez réfléchi, sur lequel vous avez écrit aussi. Comment est-ce qu'on commande des gens qui connaissent mieux la situation au fond dans laquelle on va être projeté que vous-même, quoi. Comment on réussit à affirmer son autorité dès ses premiers moments malgré le déficit d'âge et ou d'expérience?
Je pense que c'est une vraie question que tous les jeunes chefs se posent. Nous avons la chance d'avoir en France, et c'est un héritage, un système de formation de nos cadres qui est extrêmement bien fait. Et le message que je passe à tous nos jeunes officiers, tous nos jeunes sous-officiers qui arrivent dans leur régiment, c'est n'ayez pas peur. Vous avez une formation qui est de bon niveau, vous serez à la hauteur. Après, il y a des questions de qualité personnelle, etc. Néanmoins, cette formation que vous avez, ce grade que vous avez, cette responsabilité que vous avez ne doit pas vous empêcher d'apprendre de vos subordonnés. Et c'est quelque chose qui est parfois difficile à percevoir quand on est à l'extérieur des armées, notamment de l'armée de terre, qui a une image d'armée extrêmement hiérarchisée. C'est que le grade, le fait que ce grade soit visible, affiché, c'est à la fois une réalité de la hiérarchie qui fait que deux militaires se rencontrent, l'un est au-dessus de l'autre, et c'est en même temps une forme de liberté parce que il n'y a pas à prouver cet écart et là je fais le parallèle avec d'autres entités civiles dans lesquelles cette hiérarchie de toute façon existe, mais comme elle n'est pas affichée, il peut toujours y avoir la tentation d'avoir à la démontrer. Et cette réalité... La structure libère. L'affichage objectif de la hiérarchie, je ne fais pas d'angélisme, il y a des situations qui peuvent être dans lesquelles les chefs peuvent être excessivement durs, etc. Mais cet affichage immédiat de la hiérarchie est un des moyens d'avoir une forme de relation qui soit plus vraie. Et notamment, pour nos jeunes officiers, il est clair que le rôle d'un jeune officier, par exemple, je reprends l'exemple de l'infanterie. Premier rôle d'un jeune officier qui arrive dans l'infanterie, il est chef de section, il commande 40 soldats. Son rôle n'est pas d'être le meilleur en course, en tir, dans le service des armes, etc. Son rôle est d'être le meilleur dans le commandement de cette section. Probablement en topographie, il a intérêt à être le meilleur. Probablement en tactique, il a intérêt à être le meilleur. Mais c'est déjà un niveau auquel il ne peut pas être le meilleur des combattants de son unité dans tous les domaines. Et ça, c'est une forme de modestie qu'il faut apprendre et qui est indispensable. Notre système doit être basé sur le fait que les subordonnés, le sous-officier adjoint de ce jeune chef de section, doivent être là aussi pour apporter leur expérience, parce que, comme dans beaucoup de métiers, dans notre métier militaire, l'efficacité, le savoir-faire, et à la fois la combinaison de force de caractère et de traits de caractère, de connaissances techniques ou tactiques, mais aussi d'expérience. Et d'ailleurs, c'est une des dimensions tout à fait particulières de notre métier. En 1870, très grande défaite des armées françaises, une des raisons qui a été identifiée à l'époque de cette défaite, c'était le fait qu'une partie des officiers faisait partie d'un grand corps, commençait directement, à peu près au grade de commandant, directement dans les états-majors, sans avoir été dans la troupe. Et depuis, l'expérience constante de l'armée française, l'armée de terre française, c'est il faut commencer au niveau initial, il faut commencer dans la troupe, il faut être au contact du terrain, de la peur, du froid, de cette identité collective. C'est une des garanties que les grands chefs auront commencé à ce niveau-là et auront une forme de conscience de la difficulté, de la rugosité du terrain, de la réalité des forces terrestres. Et puisque vous me posiez la question sur ma carrière, c'est en fait, j'en étais à vous décrire le début de cette carrière, elle est très classique par rapport aux carrières d'officiers dans l'armée de terre aujourd'hui, c'est-à-dire c'était de toute façon de commencer à la base, et puis de combiner un certain nombre de postes dans les forces, dans les régiments, et un certain nombre de postes dans des entités autres, état-major, dans des fonctions d'environnement. Et c'est ce mix, en fait, d'expérience de la troupe et d'expérience d'état-major, d'autres entités, de contact avec l'interministériel, avec les autres armées, avec l'extérieur, qui finalement construit un parcours.
Ouais, juste pour rester une dernière seconde sur la formation, parce que il y a un moment dans votre carrière qui m'intéresse aussi tout particulièrement, c'est le fait que entre 99 et 2002, vous retournez à Saint-Cyr pour y faire de l'encadrement, ce qui sont des fonctions dont on parle pas si souvent, mais qui sont tout à fait importantes, qui sont en fait une assez grosse responsabilité qu'on donne pas à n'importe qui. C'est vous qui avez voulu faire ça, retourner à Saint-Cyr? Quel souvenir vous en gardez?
Alors oui, effectivement, après un temps initial qui est d'être chef de section, c'est-à-dire on commande 40 personnes, d'adjoint d'une compagnie, puis commandant d'une compagnie, c'est-à-dire commander 150 personnes, finalement, une petite quinzaine d'années après être rentré dans les armées, se trouve le moment de faire un premier poste dans autre chose. Soit un état-major, soit des écoles, et effectivement, moi j'avais demandé à servir en école. Pas spécifiquement à Saint-Cyr, mais en école, parce que ça me semble extrêmement important dans notre métier. C'est une des dimensions, finalement, quasi consubstantielles au caractère de nos armées et de l'armée de terre aujourd'hui. Le fait que cette armée de terre, elle reste un corps en mouvement. C'est un corps jeune. Dans l'armée de terre, l'âge moyen est à peu près d'un peu moins d'une trentaine d'années. Dans un régiment, l'âge moyen est de 28 ans. Tout jeune qui rentre dans les armées, c'est 16 000 jeunes par an et qui rejoignent l'armée de terre, a, dit-on, dans sa besace, son bâton de maréchal. Alors, tout le monde ne va pas monter au sommet de l'hiérarchie, mais en tout cas, tout le monde, militaire du rang, sous-officier, officier, rentre en ayant la perspective de progresser. Militaire du rang est d'abord un militaire du rang exécutant, mais il devient rapidement le servant d'une arme collective, puis chef d'équipe, puis éventuellement adjoint chef de groupe, etc. Même chose pour les officiers et les sous-officiers. Et donc, la fonction de formation initiale ou de cursus, elle est omniprésente dans notre système, avec un principe qui est « je suis formé et à un moment donné, je formerai ». Déjà, un jeune lieutenant, et le jeune lieutenant que j'étais, était le formateur de ces militaires du rang. Et donc, retourner en école, aller en école, à l'occasion de ce premier moment hors du régiment, c'était une dimension qui m'intéressait, avec un paradoxe ou une ambivalence qui était que j'étais à la fois en formation, et j'ai eu la chance d'encadrer 3 promotions successives de Saint-Cyr, et j'étais moi-même en formation, puisque c'est le moment de la préparation du concours de l'école de guerre, du passage du concours de l'école de guerre, et dans mon cas, la réussite à ce concours de l'école de guerre.
Mais il y a aussi quelque chose de fascinant, qui est que du coup, vous avez vu passer énormément de futurs officiers, qui sont encore aujourd'hui... Enfin, je veux dire, c'est une situation d'enseignement qui n'est pas tout à fait commune. Quand on enseigne, en général, les élèves, ils partent aux quatre coins du monde. Là, ils sont encore dans la même institution que vous commandez aujourd'hui. Et, du coup... Quel lien ça conserve, ou pas d'ailleurs, parce qu'en même temps c'est grand, et il y en avait beaucoup, avec ceux qui étaient sous votre commandement à cette époque-là, ces 3 promotions?
Alors c'est vrai qu'il y a cette particularité de former des jeunes, dans mon cas à Saint-Cyr, et finalement de les recroiser successivement à différents moments de leur carrière. D'abord, c'est marquant parce que c'est être témoin de ce cycle et de ce passage et de ce mouvement en avant du corps des militaires et du corps des officiers en particulier. Les jeunes que j'ai encadrés et que j'ai vus arriver pour certains civils débutants dans l'armée de terre, les premiers sont aujourd'hui à la porte de devenir général. Ils ont été chefs de corps en régiment. Et je continue à les croiser au sein de l'état-major des armées, dans leurs différentes fonctions. Et ce qui marque... Alors, moi, j'étais dans une fonction qui qui était au niveau du bataillon, c'est-à-dire de la promotion des 200 élèves, donc 3 fois 200 élèves, j'ai pas un souvenir très précis de ces 600 élèves. Mais certains m'avaient déjà marqué par leur personnalité ou parce qu'ils avaient des responsabilités particulières dans le bataillon et que j'ai plus interagi avec eux. Et finalement, les recroiser de loin en loin dans leurs fonctions successives, pour certains d'entre eux les avoir directement sous mes ordres par la suite, ça a été le cas d'un lieutenant qui était dans le même régiment que moi ensuite, puis capitaine, et donc ça crée des liens importants, mais c'est effectivement une dimension tout à fait particulière et très très enrichissante et finalement très gratifiante, puisque je sais que les chefs de l'armée de demain et concrètement ceux qui sont en train d'arriver aux affaires, je les avais vus comme jeunes civils rentrant à Saint-Cyr. Et c'est une grande satisfaction que d'être finalement un peu un passeur et un responsable de ces générations futures qui vont nous succéder. Nous ne sommes que de passage, moi-même je ne suis que de passage dans mes fonctions ici à la tête de l'armée de terre.
Ouais, on travaille toujours pour son successeur. Alors, ensuite, donc, il y a l'école de guerre, effectivement, vous l'avez mentionné, mais vous êtes passé par Paris à deux reprises, dans des fonctions qui sont à chaque fois extrêmement importantes et à des moments très stratégiques. Et la première dont j'aimerais vraiment parler, parce que c'est un moment qui est crucial dans l'histoire récente des armées françaises, et notamment de l'armée de terre, c'est entre 2006 et 2008, puisque vous êtes à ce moment-là à l'état-major des armées et vous travaillez sur l'application de la RGPP, donc la révision générale des politiques publiques, dans le cadre de ce qui donnera le livre blanc de 2008. On va pas refaire l'histoire, mais c'est un tournant qui a été vécu assez violemment dans les armées. Je veux dire tout de suite que je trouve particulièrement intéressant que vous ayez été dans le cœur de la machine à ce moment-là, de réduction, et parfois ça a été décrit comme les vaches maigres en quelque sorte, et que vous y soyez à nouveau, alors cette fois comme chef d'état-major, à un moment au contraire de remonter en puissance dans le cadre de cette LPM. Mais justement, voilà, à cette lumière-là, aujourd'hui, quel souvenir vous en gardez aujourd'hui de cette séquence et de cette exigence et de cette rigueur qui a été à ce moment-là imposée aux armées ?
Alors, je voudrais faire un détour avant de répondre à votre question, parce que pour souligner un fait qui est que le propre de notre métier militaire, il y a beaucoup de dimensions particulières. Il y en a une qui me paraît importante, c'est la part de chance que prend, la part qui est laissée forcément à la chance dans notre métier. Je pense que nous sommes par essence un métier de l'arbitraire. Le 6 juin 40, au moment du débarquement, des milliers et des milliers de soldats débarquent sur la plage.
44.
Le 6 juin 44. Au moment du débarquement, des milliers et des milliers de soldats débarquent sur la plage. Les mitrailleuses tirent en face, le soldat A est tué, le soldat B survit. Qu'est-ce qui fait que là, il y a une forme d'arbitraire, et cette forme d'arbitraire, elle est présente sur cette carrière aussi, parce que cette carrière, encore une fois, en mouvement, avec des moments de chance. Pour moi, un moment de chance, mais que je ne mesurais pas à l'époque, ça a été l'affectation au bureau finance de l'état-major des armées, après que j'ai été chef opération d'un régiment, de mon régiment. J'avais eu jusque-là une carrière très classique en régiment, puis école de guerre, et j'avais passé l'école de guerre. Le seul moment que j'avais passé en dehors du régiment, c'était cette période en école de formation à Saint-Cyr, mais qui était finalement aussi un poste assez classique. Et puis mon chef de corps de l'époque, à Vannes, qui par la suite est devenu chef d'état-major des armées, c'était le général Lecointre, me dit « Je pense que ce serait bien que vous alliez à l'état-major des armées. Je connais un général qui est à l'état-major des armées. Si vous lui plaisez, il vous prendra et je vais vous le faire rencontrer. »
Ça vous plaisait l'idée d'aller à Paris ou pas ?
Alors, ça me plaisait l'idée d'aller à Paris, pas forcément dans l'absolu, mais d'un autre côté, j'étais, la hiérarchie comptait sur moi pour aussi servir en dehors de l'armée de terre, de façon à pouvoir accroître mon expérience et éventuellement poursuivre ma carrière. Même si à ce moment-là, j'aurais pu, et c'était ce que je souhaitais éventuellement, poursuivre dans la voie troupe de marine et aller servir outre-mer. Mais là, mon chef de l'époque m'a dit « pas question pour vous. Vous devez aller à Paris parce que je compte sur vous pour la suite. Mais je vous laisse le choix et l'état-major des armées, donc je connais ce général, général Cambronat, qui va vous rencontrer. Si vous lui plaisez, il vous prendra. Je suis allé prendre un rendez-vous avec le général Cambronat. Il a dû me trouver sympathique, j'en sais rien. Il a dit ok, je vous prends. Et je suis arrivé à Paris, à l'état-major des armées, un matin de septembre, à PPE. Plan, programme, évaluation. Je ne savais même pas ce que faisait PPE. Et le jour où je suis arrivé, ils m'ont dit « Ici, c'est les finances de l'état-major des armées ». Pour moi, ça avait toujours été un repoussoir, cette question des finances. J'avais eu l'adjoint des écoles de Couette-Quidan, quand j'étais cadre à Couette-Quidan, et venait des finances à Paris. C'était un monde absolument obscur. Et en fait, je pense que ça a été un tournant dans ma carrière, dans le sens où pendant 3 ans, j'ai été dans ce monde des finances, du plan et des programmes à l'état-major des armées. Et avec a posteriori, avec le recul, je me rends compte que c'est parce que j'ai été dans ce poste-là que par la suite, j'ai été choisi pour aller à l'état-major particulier du président de la République, dans un poste qui avait en charge non seulement les opérations, mais aussi la programmation militaire. Je pense que c'est parce que j'ai été à l'état-major particulier que j'ai été ensuite finalement repéré et poussé, et que je suis à ce poste. C'est un des moments charnières, encore une fois, alors même qu'il me paraissait extrêmement austère et que je ne l'aurais pas choisi a priori.
Vous n'êtes pas tombé dans la période la plus faste pour y être.
Alors, il se trouve que je suis tombé à une période dans laquelle j'ai pu pendant un an faire le métier de base financier, à apprendre à programmer les opérations d'armement terrestre et hélicoptère, etc. Et puis est venu le livre blanc de 2008, la loi de programmation militaire qui lui a succédé, et au sein de ce bureau finance, j'ai été mis dans l'équipe qui traitait particulièrement de ce sujet. Ça a été un moment à la fois très dur, parce que c'était un moment de contraction des ressources, vous le soulignez, avec des réformes extrêmement importantes et des mesures très très dures à prendre. C'est à ce moment-là qu'il a été décidé qu'il y aurait une réduction de 54 000 postes dans les armées dans les années qui allaient suivre. Mais ce temps était aussi un temps de réflexion conceptuelle approfondie sur... C'est dans ce livre blanc de 2008 qu'a été... instituer, conceptualiser la continuité entre la défense et la sécurité, qu'ont été pris un certain nombre de mesures qui sont encore des mesures qui structurent aujourd'hui nos armées. Donc un temps d'apprentissage dur, mais extrêmement finalement bénéfique quand je le regarde à l'aune d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est parce que j'ai été dans ce poste que, sur un certain nombre de sujets qui me sont présentés par l'état-major de l'armée de terre, de réunions niveau des armées ou ministérielles ou interministérielles auxquelles j'assiste, tout ce mécanisme des finances publiques, de la programmation militaire, mais intériorisé, me permet de comprendre et de pouvoir prendre un certain nombre de positions sur ces sujets-là.
Vous n'êtes pas perdu devant les tableaux Excel et les projections pluriannuelles, comme ça aurait pu être le cas si vous n'étiez pas passé par là, c'est ça ?
Alors, j'ai, pendant 3 ans, été plongé dans les tableaux Excel, à en avoir des... non pas des cauchemars, mais enfin des fascinations. Parce qu'un tableau Excel doit être exact, au centime d'euro près. Et il y a cet enfermement dans l'exactitude du tableau Excel et des chiffres qui est très très prenante. Bon, évidemment, le métier n'était pas seulement de tableau Excel, c'était aussi de traduire dans du langage intelligible des propositions de décision et des orientations. Mais aujourd'hui, j'ai la chance d'être détaché du tableau Excel, mais ces mécanismes, ces questions des finances publiques, des ressources et de la façon de les mettre en œuvre pour développer une politique, ça reste une dimension très importante de mes fonctions.
Alors, ensuite, vous l'avez mentionné, mais vous êtes repassé en régiment, évidemment, mais vous avez ensuite été appelé, puis vous avez officié longtemps au sein de l'état-major particulier du président, sous François Hollande, entre 2012 et 2017. Ce qui est fascinant, parce que c'est un peu le renversement de la courbe dont on parlait à l'instant, c'est aussi une évolution radicale de la menace. Beaucoup de décisions extrêmement importantes qui sont prises pendant ce quinquennat et qui, on a bien des égards encore dans la séquence qui s'enclenche à ce moment-là. Donc, Quel souvenir, quelle trace ça vous laisse, en quelque sorte, d'avoir été au cœur du réacteur, vraiment, puisque l'état-major particulier, il n'y a pas plus au cœur du réacteur que ça, à ce moment où tout change et où tout s'enclenche, à bien des égards, disons, dans l'environnement stratégique dans lequel on est en ce moment?
Alors, c'est clair que cette expérience de 5 ans à l'état-major particulier comme adjoint du général Puga, puis de l'amiral Rogel, qui ont été les deux chefs d'état-major particuliers du président de la République, donc du président Hollande, et puis le début du mandat du président Macron, a été et restera pour moi jusqu'au bout une expérience tout à fait extraordinaire dans le sens premier du terme. Avec une fascination inéluctable quand on est dans ces postes, fascination au sens de conscience de l'importance de la matière sur laquelle on travaille et des responsabilités qui incombent de façon à pouvoir présenter au président de la République la vérité et lui permettre de prendre des décisions et ensuite aider à la mise en œuvre de ces décisions au plus haut niveau de l'État. Dans une époque, d'un point de vue des armées et de la défense, que vous avez souligné comme étant tout à fait particulière, avec un premier temps qui a été finalement qui était la poursuite de la contraction des ressources des armées, et puis progressivement l'explosion de la menace terroriste, en gros, à la fois sur notre territoire. Plus exactement, d'abord en Afrique, avec
l'enchaînement Serval-Barkhane.
Voilà, Serval-Barkhane, et puis ces attentats sur le territoire national, qui ont amené à repenser de manière très profonde le rôle des armées et l'effort consacré par la nation à ces armées. Peut-être dans un moment qu'on pourra lire dans quelques années comme étant les prémices, une forme de basculement stratégique qui pourrait s'accélérer encore en ce moment, sous nos yeux, après l'attaque russe en Ukraine, ce réveil terrible du conflit au Proche-Orient et une forme de repositionnement géopolitique de nombreux acteurs, dont les BRICS, la Chine, etc.
Et vous aviez difficile de poser la question maintenant, mais vous aviez la vision de ce changement à ce moment-là, ou en même temps dans l'état-major particulier, forcément on gère l'urgence aussi et les préoccupations immédiates, mais est-ce que vous avez senti ça comme un infléchissement sur le moment, ou est-ce que c'est 5-10 ans après maintenant qu'on comprend qu'à ce moment-là se sont jouées des choses?
Je pense que la pleine compréhension elle vient forcément a posteriori. Mais il est clair que l'engagement russe en Syrie, qui date de ce moment-là, le réengagement français, enfin, l'engagement français dans l'opération Serval, puis Barkhane au Sahel, les attentats sur le sol national successifs, apparaissait comme une conjonction d'événements sécuritaires, géopolitiques qui donnait déjà l'impression d'aller vers une forme d'aggravation, de montée de la menace, des menaces, non seulement les menaces qu'on avait qualifiées d'ailleurs dans le livre blanc de 2008 comme les risques de la faiblesse, c'est-à-dire ces menaces qui prospère sur le terreau du manque de contrôle étatique sur un certain nombre d'espaces, sur la montée de trafiquants qui ensuite ont des liens avec des groupes armés terroristes qui instrumentalisent les mouvements de population, etc. Mais dès ce moment-là, l'affirmation plus rapide qu'on ne l'imaginait de ce qu'on a appelé aussi dans le livre blanc 2008 les menaces de la force, c'est-à-dire la désinhibition d'un certain nombre d'États, y compris membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui manifestement considéraient que la puissance militaire, sa possession, la pression qu'elle permettait d'exercer sur d'autres États, voire leur emploi, tout à fait volontaire, étaient des moyens légitimes, du règlement des conflits ou des relations internationales. Et je suis absolument persuadé qu'aujourd'hui, en 2024, nous sommes à un basculement stratégique du monde qui n'est pas celui de 2024, mais qui, de mon point de vue, a la même portée que la fin de la guerre froide il y a 30 ans, donc probablement un basculement qui est susceptible d'avoir des effets ou de se caractériser par une nouvelle direction pour une, deux, trois décennies. Je pense que les prémices de ce basculement étaient déjà là en 2020, en 2018, en 2017, en 2015.
Alors, tout ça prend particulièrement tout son sens. Enfin, dans la mesure où, comme je l'ai indiqué, on est maintenant presque dans la suite ou dans l'aboutissement logique de ce mouvement, avec une LPM récente qui vise à redonner des moyens aux armées pour faire face en fait à cet environnement stratégique. C'est-à-dire, bon, la menace, vous la décrivez bien, l'infléchissement est là, et en même temps la courbe des moyens, elle avait une inertie forcément beaucoup plus forte, et il a fallu faire avec les moyens dont on disposait à l'époque. Et là, manifestement, la LPM, en tout cas, elle vise à dimensionner les armées de manière adaptée face à ces menaces. Quel est votre rôle là-dedans ? C'est-à-dire, vous avez été à plein de postes importants, que ce soit aux finances, puis à l'état-major particulier, à plein de charnières. Maintenant, vous êtes chef d'état-major de l'armée de terre. Quel est votre rôle dans ce contexte-là, dans la mesure où c'est un processus qui est politique par nature, il est ministériel, il est parlementaire, il y a aussi le chef d'état-major des armées qui connaît bien l'armée de terre et pour cause, il y a le président au-dessus. Spécifiquement, le rôle du chef d'état-major de l'armée de terre dans ce contexte-là de changement de dimension, de changement de fonction aussi et d'objectif de l'armée de terre.
Je dirais que le premier rôle du chef d'état-major de l'armée de terre que je suis, c'est de commander l'armée de terre. Dans le système français, il est bon de rappeler que le commandant opérationnel, celui qui commande les opérations, où qu'elles aient lieu, c'est le chef d'état-major des armées. Et donc le chef d'état-major des armées, commandant toutes les opérations, le rôle des chefs d'état-major terre, air, mer, est de lui fournir les moyens de mener ses opérations. Donc le chef d'état-major de l'armée de terre que je suis a pour mission de commander l'armée de terre au sens de recruter, former, équiper, entraîner, organiser, certifier des forces que je mets à disposition du chef d'état-major des armées pour qu'elles soient employées en opération. Et donc mon premier rôle aujourd'hui, y compris dans cette phase dans laquelle il y a un basculement stratégique extrêmement important, des réflexions sur la loi de programmation militaire, et je vais y revenir, c'est de faire le job. C'est que l'armée de terre, quoi qu'il arrive ce soir, soit là pour que les unités nécessaires pour faire face à toutes les situations, pour défendre notre pays, ses habitants, ses intérêts, soit prête. Pourquoi j'insiste sur ce point ? Parce que finalement, comme tous les responsables, je pense, ma responsabilité, mon rôle, est de combiner des questions d'impératif immédiat et d'impératif de plus long terme. Et dans les impératifs immédiats, c'est vraiment le fait que, quoi qu'il arrive, quels que soient les plans pour le futur, aujourd'hui, la mécanique armée de terre, qui est solide, qui a fait ses preuves au cours des dernières années dans les opérations, continue à fournir les moyens de la défense de notre pays, quoi qu'il arrive. Et dans le même temps, je suis chargé de faire adapter ses forces à la situation future. Tout ça, ça a eu une résonance particulière en 2023, qui était celle de la loi de programmation militaire. Dans la loi de programmation militaire, elle est consécutive à une revue nationale de sécurité qui avait été demandée par le président de la République, qui avait pour objectif de justement d'évaluer quelles étaient les permanences et les évolutions de l'environnement géopolitique et de donner les grandes lignes pour le futur.
Donc la RNAC 2022, suivi logiquement quelques mois
2022,
plus tard par la LPM.
Donc, et donc les travaux de LPM qui ont suivi, sous l'autorité du ministre et du chef d'état-major des armées, ont consisté à trouver les moyens, dans un contexte de ressources qui allait être en croissance, la meilleure équilibre entre ces réalités du moment et les réalités futures, et de tracer le chemin qui permettra de faire ce changement. Comme j'aurai la responsabilité d'assurer ce chemin et cette transformation, notamment de l'armée de terre, au cours des travaux de la loi de programmation militaire, ma responsabilité a été de conseiller, enfin de faire des propositions qui me semblaient réalistes et réalisables de cette évolution sans lâcher la proie pour l'ombre de l'armée de terre vis-à-vis du chef d'état-major des armées et du ministre. Un peu dans la même position qu'est le chef d'état-major des armées vis-à-vis du président de la République s'agissant des opérations. Et nous, on a un système institutionnel tout à fait particulier en France qui est que le chef d'état-major des armées est le conseiller et il est le commandant opérationnel. Il est au Conseil de défense, il propose au président de la République des modes d'action, et à l'issue du Conseil de défense, il est chargé de les mettre en œuvre. Dans beaucoup d'autres systèmes, très difficile de comparer avec le système américain, tellement la différence de taille est importante, mais c'est vrai en Grande-Bretagne également, celui qui conseille le chef des armées n'est pas forcément celui qui exécute. Donc, on peut toujours imaginer qu'il y a une forme de dichotomie et qu'à la sortie de la décision du président, l'exécuteur, celui qui doit commander, dise « Mais attends, le conseil que tu as donné, il n'est pas faisable. » Là, celui qui conseille est celui qui exécute. Eh bien, finalement, pour la loi de prévention militaire et en dehors des opérations, c'est un peu le rôle que j'ai eu. C'est-à-dire proposer des modes d'action pour l'armée de terre en étant chargé ensuite de les mettre en œuvre.
Et alors, du coup, cette LPM qui redonne des moyens à l'armée de terre, à l'ensemble des autres armées, qui est une inflation en tout cas budgétaire manifeste, comment est-ce que vous l'interprétez? Comment est-ce que vous l'avez traduite dans le cadre de l'armée de terre? Est-ce que vous diriez qu'il y a un retour à la masse, une insistance là-dessus? On reparlera ensuite, parce qu'évidemment, il y a des conflits contemporains dont il faut s'inspirer pour penser nos armées, mais est-ce que c'est une attention à la masse? En même temps, il n'y a pas de fatalité à ça, on n'est pas dans la même situation stratégique que l'Ukraine non plus. S'il fallait, en tout cas, résumer l'objectif, quel a-t-il été pour vous?
S'il fallait résumer l'objectif d'un seul mot, je dirais c'est la cohérence. Cette loi de programmation militaire avait un objectif de cohérence, cette loi de programmation militaire a un effet premier de cohérence pour l'ensemble des armées, pour l'armée de terre. La cohérence pour l'armée de terre, je la vois dans trois dimensions. Une dimension verticale. Quand on a un équipement, il est impératif qu'il y ait une forme de cohérence par rapport aux additifs, aux compléments, aux à côté de cet équipement. À côté égale petits armements qui vont autour, c'est la qualité des hommes qui servent cet équipement, c'est les munitions, c'est le carburant, c'est les pièces de rechange, de façon à ce qu'il n'y ait pas un gros équipement mécanique vide qui n'ait pas d'efficacité. À côté de cette cohérence verticale, il y a une cohérence horizontale. Les différents équipements, les différentes grandes capacités de l'armée de terre doivent être équilibrées à due proportion. Si nous n'avions que de l'infanterie, nous n'aurions pas d'efficacité. C'est par la combinaison de capacités d'infanterie, de cavalerie, c'est-à-dire ce qu'on appelle contact, de commandement, d'appui, de soutien, que la cohérence de l'outil armée de terre se fait. Et puis cette cohérence verticale et horizontale, elle doit avoir une forme d'évolution dans la profondeur. Il y a une cohérence d'aujourd'hui qui est nécessaire, qui est ce qu'on a, et qui doit permettre de répondre aux besoins du moment, et il y a son évolution. Or, probablement, dans les années précédentes, compte tenu des impératifs d'économie ou de séquencement des efforts, nous avions excessivement porté l'effort sur les objets les plus importants et les plus symboliques, sans forcément réussir à créer la cohérence. Et vous savez, enfin, je ne vais pas développer là-dessus, mais la question de munitions que nous n'avons pas forcément suffisamment pour certains équipements en stock, de déséquilibre entre différentes capacités. Et donc cette loi de programmation militaire, ça a d'abord été la reconstitution et la constitution d'une cohérence pour l'armée de terre. Cette cohérence, nous avons essayé, enfin, nous la matérialisant à travers un certain nombre de rendez-vous successifs. Je vais en mentionner un seul. C'est en 2027, nous devrons être capables de projeter, c'est-à-dire de mettre sur pied, de déployer en 30 jours, une division modernisée. Ce rendez-vous de cohérence, c'est donc une façon de... c'est un élément important du chemin d'évolution au cours des années à venir de notre armée de terre. Je souligne ce rendez-vous parce que, encore une fois, cette cohérence, elle est manifestée par cette notion de division, c'est-à-dire c'est une unité bonne pour le combat qui permet de faire ce rendez-vous de cohérence sur le chemin de la modernisation.
Mais c'est tout à fait fascinant, parce que ça, ce sont certains des grands objectifs de l'armée de terre. On voit, il y a un objectif de déployer, d'opérationnaliser, et puis de déployer, de rendre déployables en tout cas des unités toujours plus grandes. Le niveau divisionnaire a été recréé il y a quelques années après avoir disparu à la fin des années 90. Désormais, par exemple, dans l'exercice Orion, il y a des brigades que vous cherchez à opérationnaliser. On sent qu'il y a une sorte de mouvement d'augmentation, d'essayer de rendre toujours plus déployables et toujours plus opérables des unités toujours plus grandes. C'est ça votre objectif organisationnel et structurel des années à venir, c'est le changement de dimension et le rendre fonctionnel des échelons toujours plus larges.
Mon objectif premier pour les années à venir, c'est de faire le job, c'est-à-dire c'est de produire les effets stratégiques pour la défense de notre pays, de ses habitants et de ses intérêts. Et donc ma première lecture et mon premier objectif, c'est de me demander quels sont les espaces dans lesquels l'armée de terre est attendue en premier lieu. J'en vois trois. Le premier espace, c'est la maison, c'est notre pays, Hexagone et Outre-mer, la défense, la protection, la résilience, la contribution à l'esprit de défense dans cet espace. Le deuxième, si je prends par cercle un peu concentrique, c'est la solidarité stratégique, la défense collective en Europe, au Proche et Moyen-Orient éventuellement. Et le troisième, c'est la protection et l'influence, la prévention pardon, et l'influence un peu plus au large, en Afrique, jusqu'à la Corne de l'Afrique, l'océan Indien et jusque dans le Pacifique. Et dans l'ambition stratégique, au service de l'ambition stratégique de notre pays, qui est résumée par cette formule du président de la République, France, puissance d'équilibre et d'entraînement, il est primordial que l'armée de terre puisse fournir des effets stratégiques dans ces trois dimensions. Il y a ensuite l'héritage de l'armée de terre aujourd'hui. Cet héritage, c'est l'héritage d'une force extrêmement polyvalente. Mais cette polyvalence, elle a été acquise, créée, construite à un moment où il y avait finalement un peu de temps pour préparer les unités. Et donc, en gros, c'est un peu l'image du Lego démonté sur la table. L'armée de terre est comme un Lego démonté sur la table. Pour remplir des missions et produire des effets stratégiques, on passe par une génération de forces, on prend les pièces et on construit exactement la pièce dont on a besoin pour remplir la mission.
Ça, organisationnellement, c'est notamment l'importance du GTIA dans les années passées, c'est-à-dire un groupement où on rassemble des unités ensemble pour un objectif donné, notamment en projection extérieure.
Voilà, donc ça, avec le fait que, tel que vous le mentionniez, GTIA, le bataillon, à peu près 1000 hommes, c'est finalement, c'était un peu la... non pas la brique de base du Lego, mais c'était le montage de base du Lego des missions, des opérations au cours des dernières années. Évolution géostratégique, premier effet, c'est que probablement ce qui est requis dorénavant, non seulement dans la défense collective en Europe, au sein de l'OTAN, mais d'une manière générale dans les opérations, c'est probablement des pièces plus importantes du niveau supérieur, c'est-à-dire du niveau brigade au moins, voire des pièces encore plus importantes, c'est-à-dire du niveau division, regroupant trois brigades, etc. Et deuxième impératif, c'est la rapidité, c'est la réactivité de création de ces... la vitesse à laquelle la menace peut se caractériser et donc le besoin de réagir a lieu. Pour ces deux raisons, l'armée de terre va, dans les prochaines années, se réorganiser pour gagner en réactivité et de façon à être plus adapté aux modalités de la guerre future ou actuelle, qui vont conserver finalement des caractères très, très archaïques. Et on voit dans la guerre en Ukraine, ou même à Gaza, les tranchées, les bombardements, la bataille maison par maison. Mais combiner tout ça avec finalement des modes d'action et des capacités et des besoins plus modernes, ce qu'on appelle les nouveaux champs, mais enfin, ce sont les questions de drones, c'est la lutte informationnelle, c'est la guerre électronique, c'est le cyber, etc. Les deux sont importants. Donc, gagner en réactivité par une organisation qui va plus parier sur les brigades. Brigades, dans l'armée de terre française, c'est 7500 hommes qui doivent devenir le pivot et finalement des pièces prémontées sur la table de ce Lego. Et en parallèle, donc, cette évolution doit, des années à venir, la modernisation permise par la loi de programmation militaire doit nous permettre d'acquérir les capacités, les équipements, qui sont les équipements et les capacités du combat moderne, c'est-à-dire les systèmes de commandement, les systèmes de renseignement pour acquérir la transparence du champ de bataille, les systèmes de frappe à longue portée, et puis toute la défense contre cette menace aérienne qui est si présente aujourd'hui sur tous les théâtres d'opération. On a vu des chars Merkava, les chars les plus puissants du monde, détruits par des jouets, par des drones achetés dans le commerce, qui avaient été bricolés avec un élastique, une goupille et une grenade, et qui sont venus se mettre à la verticale de ces chars et qui ont largué leurs grenades dans la tape ouverte de ces chars. Ça, on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas supporter une menace comme ça. Il faut que nous développions au cours des prochaines années une défense solaire contre ces petits drones, mais aussi contre toutes les menaces aériennes étagées entre ces petits drones et les missiles hyper-véloces les plus modernes que les Russes emploient aujourd'hui en Ukraine.
Je remarque avec son, donc les chars israéliens, c'est évidemment le conflit à Gaza. Alors justement, on y vient, mais il y a un certain nombre de conflits qui vous fournissent de la matière à retour d'expérience, alors soit que ce soit par l'extérieur, en les observant, ou parfois en partage d'informations avec des partenaires ou des alliés. Bon, le premier, on va commencer par le plus évident, c'est évidemment l'Ukraine, puisque c'est aussi ça qui a donné l'urgence, c'est aussi ça qui préside à cette séquence de la LPM, même si bon, c'était un mouvement qui était déjà engagé, mais en tout cas c'est en cohérence avec l'Ukraine. Voilà, fonctionnellement, qu'est-ce qui vous vient de l'Ukraine dans la vision que vous avez là, en ce moment, pour l'armée de terre? Je précise, soit dit en passant, que régulièrement, vous faites j'y pense à l'instant, vous faites des retours d'expérience, vous faites des analyses, notamment sur LinkedIn. Je trouve extrêmement intéressante et je trouve ça vraiment super qu'un chef d'état-major partage des analyses comme ça régulièrement. Mais, il y a plein d'analyses là, mais s'il fallait résumer, la vision que vous mettez en place pour l'armée de terre française, quels sont les éléments qui viennent directement de l'Est de l'Europe et de la guerre qui s'y déroule?
Alors la guerre en Ukraine est extrêmement intéressante à tous les niveaux à observer, même si je pense qu'il faut faire preuve de modestie et d'attention en essayant très profondément de distinguer ce qui est structurel dans les enseignements à tirer et donc dans les réalités de ce conflit et ce qui est beaucoup plus conjoncturel. Avec la modestie qui est liée à la proximité dans le temps et au fait que toute une partie des informations nous sont cachées ou on tente de nous les cacher. Premier niveau d'analyse, le niveau le plus élevé, c'est la question de l'ontologie de la guerre. Est-ce que cette guerre est la dernière d'une époque finissante ou est-ce qu'elle est à l'image de la guerre qui vient ? Moi, je suis persuadé qu'elle est malheureusement plutôt à l'image de la guerre qui vient. Et que le fait qu'un pays, y compris membre permanent du Conseil des Nations Unies, décide que l'emploi de la force est un moyen de régler un équilibre géopolitique avec un de ses voisins, c'est un fait marquant qui va demeurer. Et que dans ce conflit, la coexistence des éléments les plus archaïques de la guerre, le fait que la bataille se gagne au sol à la fin, même si le stand-off, c'est-à-dire le fait de pouvoir tirer à distance ou les capacités à distance sont importantes, demeure. Donc premier enseignement pour moi, malheureusement, l'hypothèse d'un conflit étatique dur reste possible. D'où deuxième enseignement de deuxième niveau qui est celui de qu'en est-il pour nous ? Et là, effectivement, nous ne sommes pas dans la même situation que l'Ukraine. Nous ne sommes pas un pays au contact d'un voisin et d'une menace directe. Nous sommes dotés, un État doté de la dissuasion nucléaire. Mais deuxième enseignement, c'est que nous faisons partie d'une coalition qui s'appelle l'OTAN et que les obligations, nos obligations dans cette coalition nous obligent. Et donc, notre pays, qui a une ambition de puissance d'équilibre et d'entraînement, a une ambition de nation cadre. Et donc, deuxième enseignement, pour moi, au-delà de la permanence, c'est le fait que les forces terrestres, l'armée de terre française, doit être capable de nourrir cette crédibilité de nation cadre de notre pays dans la défense collective en Europe. Et c'est ça qui finalement
donc,
toise...
Nation 4, rappelons, c'est un concept otanien qui est de certaines nations, certains des alliés qui sont capables de fournir en quelque sorte une structure sur laquelle les autres viennent s'agréger, fournir des capacités, mais il faut quelqu'un qui fournisse en quelque sorte l'architecture, qui soit capable de le faire, qui soit capable d'attirer aussi par ces alliés-là. Et donc ça demande des capacités structurelles, disons.
C'est ça. Donc le fait que nous ayons un certain nombre de capacités structurelles à la mesure de l'ambition de notre pays dans cette défense collective de l'OTAN et cette réalité qui n'est pas forcément la plus probable, mais qui est sans doute la plus dangereuse, la plus qui demande les capacités les plus élevées, c'est finalement ce qui va toiser, c'est ce qui va tailler le contrat opérationnel de l'armée de terre autour de la notion de corps d'armée. Corps d'armée qui doit nous permettre de commander un corps d'armée. Un corps d'armée, ce serait donc jusqu'à 60 000 hommes dans l'OTAN. Commander ce corps d'armée et en fournir une partie avec une division, c'est-à-dire donc pour l'armée de terre française, à peu près 25 000 hommes au total, c'est donc le pivot des capacités que nous construisons et que nous avons à construire, même si, évidemment, ces capacités, elles servent à bien d'autres choses, notamment, d'abord, elles servent à avoir une crédibilité, même si on ne les emploie pas dans l'OTAN, et ce seraient les moyens de pouvoir, le cas échéant, commander une autre opération ou une opération dans une coalition qui soit hors OTAN, ou de participer à une coalition, par exemple, c'est en application de nos accords de défense au proche Moyen-Orient, etc.
On peut mentionner que être capable de coordonner, commander un corps d'armée, y compris avec des partenaires, enfin, c'est pas un sport de masse, il n'y a pas énormément de puissances qui sont capables de le faire, il y a à peu près que les Américains à l'heure actuelle, et que donc c'est une réelle montée en capacité, c'est vraiment des savoir-faire à développer ou à redévelopper, qui c'est pas évident, quoi. C'est pas parce qu'il y a des corps d'armée en France qu'on saurait forcément le faire avec des partenaires, c'est un voyage, quoi.
Alors, effectivement, on peut considérer que les Américains, c'est clair, ont cette capacité. Maintenant, un certain nombre d'alliés européens ont l'ambition d'avoir cette capacité, notamment par exemple nos partenaires britanniques, les Allemands. Voilà. Mais j'insiste sur le fait que ce corps d'armée et les capacités qui accompagnent ce corps d'armée sont à la fois une réponse et un élément de crédibilité dans la défense collective de l'OTAN, mais sont également duo, non pas pour un emploi civil, c'est clair, mais ce sont exactement les mêmes capacités qui nous permettraient de commander une composante terrestre dans une opération importante, je citais par exemple au Moyen-Orient dans le cadre d'application d'accords de défense, voire de commander une opération dans une coalition dans laquelle nos alliés, parce qu'ils ont confiance en nous dans l'OTAN, seraient prêts à venir avec nous, par exemple en soutien du Liban ou ce type d'opération. Et il se trouve que ce sont les mêmes capacités qui sont aussi nécessaires dorénavant à tout engagement strictement national dans le cadre de l'autonomie stratégique de notre pays. Donc La construction d'une capacité autour de cette notion de commandement de corps d'armée qui a une vocation à faire face à l'hypothèse la plus dangereuse, mais qui est aussi une façon d'obtenir la confiance de nos alliés et d'avoir finalement l'ensemble des capacités nécessaires à tous les engagements modernes, quel que soit leur environnement. C'est donc, pour répondre à la question qui portait sur...
Sur l'ORETEX, exact.
Oui, je vous disais, trois niveaux de retour d'expérience. Un premier qui est sur l'ontologie de la guerre. Finalement, malheureusement, le retour de la guerre aux frontières de l'Europe qui nous oblige à penser cette guerre. Deuxièmement, ce RETEX qui nous dit que la notion de crédibilité dans la défense collective, notamment de l'OTAN, est primordial compte tenu de cette situation. Et puis après, un certain nombre de retours d'expérience qui sont plus opérationnels sur la mécanique interne des armées, j'allais dire, et de l'armée de terre, extrêmement intéressants à observer et à étudier. Pour moi, le premier de ces retours d'expérience, c'est la question des systèmes de commandement et du numérique, avec la coexistence de l'emploi nécessaire de systèmes tout à fait souverains et très résistants et éventuellement conçus un peu sur le temps long, avec matinée nourrie du bouillonnement et de toutes les innovations possibles du numérique libéral, j'allais dire, du commerce et qui vient du civil, qui a été utilisé en Ukraine. Deuxième grand enseignement, c'est la transparence du champ de bataille. Non pas que le champ de bataille soit par essence transparent, mais on se rend compte qu'il peut devenir transparent dès lors qu'on y met les moyens. Et que probablement nos adversaires vont y mettre un certain nombre de moyens, et que nous avons donc un objectif et un intérêt, un impératif à acquérir ces moyens de la transparence du champ de bataille, drone, analyse des images, y compris de satellites, notamment avec une couche d'intelligence artificielle, cyber, guerre électronique, moyens humains dans la profondeur, permettant de connaître l'environnement et de voir ce champ de bataille. Dès lors qu'il y a la transparence du champ de bataille, vient la question de la létalité. Comment frapper ? Frapper, ce qu'on appelle cinétique, frapper par l'artillerie longue portée, par les questions de boucle, de ciblage dynamique extrêmement rapide, y compris dans la profondeur. Et donc ça, c'est pour nous la question de notre artillerie, nos feux longue portée, ou frapper de manière électronique, cyber, à longue distance. Dès lors qu'il y a la transparence et la létalité, l'adversaire là, et il y a la question de la protection, notre protection, la protection notamment contre cette menace aérienne multicouche, du plus petit drone jusqu'aux engins les plus modernes, par la dispersion, etc. Voilà un certain nombre d'enseignements, mais évidemment il faut qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on continue à regarder ce qui se passe en Ukraine.
Et c'est fascinant parce que c'est la question de l'échéance, quoi. C'est-à-dire, vous le mentionnez, la transparence du champ de bataille, c'est notamment les drones. Et ça, les remontées qui viennent de ces dernières semaines, ces derniers mois, on parle de dizaines de milliers de drones qui sont perdus chaque jour par l'Ukraine, imagine-t-on aussi par la Russie. Et ça, c'est fascinant parce que la France ne serait pas capable de perdre une dizaine de milliers de drones par jour, c'est pas possible. Et en même temps, est-ce qu'il y en a besoin ? Est-ce que c'est une capacité, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'il faut regarder l'Ukraine ? Est-ce que c'est, puisqu'ils en ont besoin, il faut au moins qu'on en soit capable, éventuellement ? Ou est-ce que, en fait, la France n'est pas l'Ukraine, on n'a pas les mêmes savoir-faire, on n'a pas les mêmes couches du spectre qu'on a développées. Voilà. Dans quelle mesure est-ce qu'il faut essayer d'être capable de gagner la guerre que l'Ukraine mène, et dans quelle mesure il faut être capable de gagner la guerre que la France mènerait éventuellement dans des conditions à définir ?
Oui, alors on rejoint là, à travers votre question, exactement le nœud de la question. Distinguons ce qui est conjoncturel de ce qui est structurel. Un structurel, même s'il est temporaire, c'est les drones. La réalité de la présence des drones aériens sur le champ de bataille est une réalité, enfin c'est une réalité du temps actuel et du temps à venir, à court terme. Et donc, Là, il est clair que, indépendamment de la comparaison entre la France et l'Ukraine, nous devons continuer à monter en gamme sur cette question des drones. Alors, vous mentionniez des quantités de plusieurs dizaines de milliers, etc., qui mélangent des drones qui sont bricolés au coin du, dans un hangar, avec des drones beaucoup plus évolués. Aujourd'hui, l'enjeu pour les armées françaises et pour l'armée de terre, c'est justement de monter en gamme dans ce domaine-là, non seulement sur les drones souverains qui sont les plus évolués, mais aussi d'introduire au sein de nos armées et de l'armée de terre cette idée du bricolage, cette idée de la construction d'un certain nombre de drones, d'utilisation. Et il y a des tas de démarches auxquelles nous assistons en Ukraine et qui sont à regarder chez nous aussi, hein, d'impression 3D, de construction de ces drones, etc. Très simple et quasiment jetable. Nous serions incapables de faire ça? Non. Alors simplement, aujourd'hui, on est plutôt sur une logique de drones acquis et qui sont déjà des drones de plusieurs milliers d'euros, voire de plusieurs dizaines de milliers d'euros, y compris nos petits drones parce qu'ils ont une caméra thermique, etc. Et donc, justement, oui, il faut que nous fassions un mouvement dans ce domaine-là, d'accepter d'avoir des drones encore plus rustiques et probablement fabriqués dans nos unités pour être utilisés, et que ce soit une idée d'emploi permanente. Là, il faut quand même distinguer les situations de droit, enfin, ou de temps de paix dans lesquels nous sommes et pour lesquels il y a des limitations en termes de vol, de sécurité, de survol de population, etc., d'un pays qui est en guerre et qui peut outrepasser ses limites. Et je pense que nous saurions les outrepasser également. Ouais. Néanmoins, est-ce que cette évolution est vraiment structurelle, c'est-à-dire qu'elle va durer pendant des dizaines d'années? Je ne le crois pas. Je pense que aujourd'hui, dans la guerre entre l'épée et la cuirasse, l'épée drone l'emporte, mais que la cuirasse va monter en gamme. De notre point de vue, 75% des drones qui sont perdus en Ukraine le sont par guerre électronique. Et donc les moyens de guerre électronique pour lutter contre les drones, c'est un effort à faire. La question de la détection de ces drones, de la protection contre ces drones est une réalité en Ukraine aussi. On a vu combien au début des drones extrêmement simples arrivaient à faire des dégâts énormes en permettant de repérer des cibles et de les tirer, combien la guerre électronique est arrivée et qu'il a fallu maintenant durcir ces drones, ensuite mettre à bord de ces drones une part d'intelligence artificielle pour qu'ils puissent suivent le terrain, même quand leurs liaisons sont coupées, puis les armées qui utilisaient des fumigènes pour masquer leur action, puis des caméras thermiques qui sont venues sur les drones qui permettaient de voir à travers les fumigènes, puis des stroboscopes qui permettaient d'aveugler les drones qui avaient des caméras thermiques, etc. Il y a une espèce de course entre les deux qui fait que probablement, assez rapidement, finalement le drone vraiment tout simple ne sera plus non plus la panacée, et qu'il y aura une forme de course. Il y a, de mon point de vue, un âge d'or aujourd'hui du drone aérien, mais qui sera en partie contrebattu par les moyens de défense qu'il faut que nous acquérons.
Comment est-ce que vous envisagez le soutien direct en ce moment, et puis aussi dans un futur proche, de l'armée d'État française, des armées françaises plus largement, à l'Ukraine? C'est-à-dire quel rôle vous identifiez pour l'armée de terre en soutien des forces ukrainiennes?
Donc le soutien des forces ukrainiennes par les armées françaises et par l'armée de terre en particulier est une réalité depuis le début du conflit. Nous avons cédé des équipements, nous avons fait un certain nombre de formations et nous continuons à le faire. Mais probablement compte tenu de la durée du conflit, l'enjeu est et d'accroître encore ce soutien et de l'organiser, ce qui est le cas. Et donc nous allons prendre la tête d'une coalition de soutien à l'Ukraine pour le domaine de l'artillerie. qui est en train de se structurer dans le cadre de coalitions équivalentes pour d'autres de capacités menées par nos alliés. Donc l'enjeu est de non seulement de continuer notre appui direct en termes d'artillerie, cession d'équipement, formation, etc. aux Ukrainiens, mais de structurer l'aide qui est apportée par les différents alliés sur cette capacité qui est manifestement primordiale dans la typologie des combats actuels en Ukraine. L'objectif étant de à la fois fournir les munitions d'artillerie nécessaires, les pièces d'artillerie, mais aussi à restructurer ou à structurer encore davantage les capacités d'artillerie de l'Ukraine en essayant de leur faire rejoindre des standards qui sont soit équivalents aux nôtres, et là en nous appuyant sur sur la qualité de nos réseaux artillerie et de notre chaîne de feu en France, même si en parallèle nous avons à apprendre de ce que font les Ukrainiens et à rendre opérationnel ce tir, notamment à partir de l'observation des drones.
Et de ce point de vue-là, ce qu'ils font avec les Césars, qui après tout connaissent le... Alors, c'est pas exactement la première fois, ils ont été notamment utilisés à la bataille de Mossoul, enfin, mais il y a... C'est-à-dire, à quel point est-ce que ça remonte, à quel point est-ce que c'est intégré, à quel point est-ce que ça devient organiquement un élément de, en tout cas, de la tactique et même de la doctrine française autour de ces appareils?
Alors, l'emploi des Césars, effectivement, on n'a pas attendu leur engagement en Ukraine pour les employer en opération, et notamment en Irak, on avait énormément tiré. Néanmoins, dans un conflit de cette ampleur, les Césars, d'abord, montrent que même dans un conflit de cette ampleur, ils ont toute leur utilité, notamment pour la raison de la rapidité d'entrée en batterie et de sortie de batterie, pour pouvoir résister aux tirs de contre-batterie. Et ça, c'est quelque chose que nous n'avions pas ou peu dans les engagements que nous avions, et c'est une confirmation. Deuxième point, nous apprenons sur l'usure de ces canons qui, là, tirent des quantités de munitions et un rythme qui est... bien supérieur et beaucoup plus continu que ce que nous avions fait au préalable, mais avec en contrepartie à la fin des pertes de précision, notamment compte tenu de l'usure des canons, etc., qui sont des éléments que nous avons à prendre en compte dans un emploi de ces canons qui pour nous est quand même extrêmement lié à une chaîne artillerie et une précision des feux qui doit être très importante. L'enjeu et l'intérêt de ces canons, c'est aussi de pouvoir faire du tir d'emblée sur des objectifs avec une connaissance quasi métrique de ces objectifs.
Et là, on a parlé de l'Ukraine sous les angles organiques, capacitaires, etc., sous les matériels qu'ils ont, les savoir-faire qu'ils ont. Justement, les savoir-faire, si on reparle un peu de ce par quoi on a un peu commencé, c'est-à-dire le commandement. Alors évidemment c'est un peu compliqué parce qu'on n'y est pas en Ukraine, on n'est pas sur le terrain avec eux, mais quand même, est-ce qu'il y a des choses que vous observez là-dessus qui sont transposables avec des limites, on n'est pas en guerre ouverte de haute intensité, mais qui sont transposables sur la manière dont vous voulez que les chefs chefs en quelque sorte dans l'armée de terre?
Alors il est clair que là, même s'il faut se garder de la comparaison, parce que la culture de notre armée est très différente de celle de l'Ukraine et de l'armée russe, évidemment. Il est clair que ce conflit en Ukraine a montré une forme de dichotomie entre un commandement tactique au bas échelon très centralisé et un commandement qui donne de l'initiative. Très schématiquement, le commandement plutôt des forces russes, en tout cas, encore une fois, aux bas échelons tactiques, et des forces ukrainiennes, et notamment dans les premières phases du conflit. Et je pense que cet élément est...
Donc les Ukrainiens donnant plutôt...
Les Ukrainiens donnant plutôt de la responsabilité, combat déconcentré, de l'initiative, avec des forces russes très strictement organisées, et donc avec une peur ou une aversion à un moment donné à la prise d'initiative, y compris au bas échelon.
Ce qui est un autre débat tout à fait centenaire entre l'off-track tactique et, enfin bon, bref, la capacité ou pas à responsabiliser, à autonomiser les échelons plutôt les plus proches du terrain.
Voilà, débat centenaire. Or, il se trouve que la culture très établie des armées françaises et de l'armée de terre en particulier est celle de la subsidiarité, prise de responsabilité, risque pris au bas échelon, avec cette notion de commandement par l'intention, c'est-à-dire que ce qui compte, le cœur de l'ordre donné, c'est l'intention, le pourquoi, l'objectif à obtenir, avec une forme de liberté sur les modalités. Ça, c'est une dimension, un style qui est profondément ancré dans l'armée de terre française et qui a amené beaucoup de succès militaire. Or, c'est peut-être quelque chose qui est rendu plus difficile aujourd'hui par l'organisation quotidienne de notre armée de terre en garnison en France. Et donc, mon objectif est vraiment de mettre l'accent au cours des prochaines années sur cette notion de style de commandement par la responsabilisation, la subsidiarité, la culture du résultat, dès la garnison, dès la vie quotidienne de l'armée de terre, à la façon de et pour préparer l'engagement opérationnel.
Et c'est fascinant parce que tout ça dépend aussi évidemment d'un contexte technique, évidemment que les moyens de communication sont tels, enfin, on n'a pas parlé, par exemple, de Scorpion, mais enfin, en tout cas, le partage d'informations, la possibilité d'interagir, y compris jusqu'à des niveaux assez supérieurs de manière très simple, c'est très différent de l'époque où il fallait prendre la radio et répéter et atteindre la bonne personne. Donc, il y a forcément la tentation pour les échelons supérieurs de contrôler jusqu'aux échelons les plus tactiques. Et comment est-ce que, au contraire, on va dans le sens inverse et on tend à, au contraire, donner de plus en plus d'autonomie, quoi?
Alors vous l'avez dit, c'est un débat centenaire, c'est un débat multiséculaire même. Et le côté technique ne le tranche pas. Au contraire, le côté technique, cette émergence de la société de l'information, des moyens numériques, donne l'illusion qu'un jour on saura. Un jour le chef pourra tout savoir et dire. Et en fait, c'est une illusion. Alors je le dis là comme un acte de foi, mais ce que j'observe dans la mise en œuvre de Scorpion, justement, les expérimentations successives, tous les chefs nous le disent. Derrière cette impression que peut-être les outils numériques modernes permettraient de donner la victoire enfin à la centralité et au commandement centralisé par rapport à la subsidiarité, c'est pas vrai. Parce qu'il y a une forme d'accumulation d'informations toujours plus grande qui fait que, de toute façon, il y a comme une course effrénée entre la capacité à asseoir sa décision sur des informations toujours plus importantes et le fait que le chef d'un niveau subordonné, à un moment donné, compte tenu de son engagement personnel, parce qu'il y a des questions de risque de vie dans notre métier, mais aussi de capacité d'adaptation, etc. En fait, l'initiative, la subsidiarité, la responsabilisation, la culture du résultat, le commandement par l'intention restent des méthodes qui sont non seulement qui restent adaptés, mais qui sont probablement encore plus adaptés aux modalités modernes du commandement, d'autant plus que pour le chef, il y a comme une corde de rappel, c'est celle de ses indicateurs qui permettent de suivre ses subordonnés, même et donc de se rassurer s'il en a besoin, même si eux vont agir avec une responsabilité déléguée.
Mais ce qui est fascinant aussi, c'est que donc il y a évidemment la tentation du chef de contrôler. J'y pense parce qu'en préparant cette émission, je voyais un reportage sur l'exercice Orion dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui était fascinant. Il y avait dans une sorte de briefing, je ne sais plus qui était le général qui disait ça, mais qui disait donc là on a tout donné et à partir de maintenant c'est vert, ne faites pas des réunions, ne venez pas me redemander des choses, parce que c'est aussi la tentation des subordonnés de se rassurer, de se couvrir, d'aller chercher en permanence des ordres aux échelons supérieurs. Et c'est, ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus culturel, c'est une démarche culturelle beaucoup plus large que simplement dire au chef de laisser tranquille les subordonnés. C'est, il faut aussi autoriser les échelons inférieurs à croire, enfin, en tout cas, à se faire confiance et à pas chercher en permanence la direction supérieure.
Non, mais c'est clair que c'est une culture qui est une culture des chefs, mais qui doit être une culture des subordonnés aussi. Je suis absolument persuadé que cette notion de culture du résultat, c'est-à-dire un chef, une mission, des moyens, au moins une partie des moyens, et toute la responsabilité d'obtenir le résultat, est une réalité du monde moderne et demeure une réalité du monde moderne, qui n'est pas remise en cause, bien au contraire, par les nouvelles technologies, mais qui demande une acculturation, un entraînement, des méthodes particulières, ce qu'on appelle mission brief, c'est-à-dire le chef donne la mission, ce qu'on appelle back brief, c'est-à-dire le subordonné vient expliquer comment il va remplir sa mission, mais ensuite une forme de liberté dans un espace autorisé, et géographiquement pour les armées, c'est assez logiquement la limite longue, limite courte sur le terrain, limite gauche, limite droite, avec une box dans laquelle les subordonnés ont une forme de liberté d'action. Et encore une fois, avec cette primauté de l'intention, c'est-à-dire pourquoi je fais cette mission, quel est l'objectif ultime, plutôt que l'ensemble des règles à suivre. Donc je pense que toute cette méthode, cette culture, est une réalité objective du combat moderne. Je pense que c'est une réalité tout à fait pertinente pour le fonctionnement de nos armées et de nos organisations. Et donc mon objectif, même si ça fera partie des réformes que nous allons mettre en œuvre, même si c'est pas la réforme la plus visible, je pense que c'est une des réformes qui doit avoir, dont j'attends qu'elle ait les effets les plus lourds, c'est cette question de diffusion dans la vie courante comme en opération, de cette culture du commandement par l'intention, de la subsidiarité, de la responsabilité, de la culture du résultat.
Alors ça, c'est l'Ukraine qui est évidemment le rétexte le plus évident et le plus présent. L'autre conflit majeur du moment, l'autre intervention majeure du moment, c'est évidemment l'opération militaire israélienne à Gaza, qui a lieu depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. Bon, d'abord, en première approche, quelles leçons, quelles observations, en tout cas, dans un premier temps, vous tirez de ce déploiement israélien ?
Le conflit à Gaza sera immanquablement très très riche de retours d'expérience. Mais encore plus que dans le conflit en Ukraine, la question de distinguer les éléments qui sont propres à ce conflit, à ce moment, par rapport aux éléments qui seront des éléments pérennes sur lesquels réfléchir pour l'armée française me semble aujourd'hui difficile à distinguer. Finalement, il y a une question à observer qui est intéressante en particulier, c'est que l'Ukraine, à ce stade, semble démontrer la supériorité de la défense par rapport à l'offensive dans les conflits modernes. Et notamment la défense en s'appuyant sur les zones urbaines et donc la manœuvre qui s'orienterait plutôt sur les espaces lacunaires de façon à pouvoir envisager éventuellement une percée dans la profondeur. Et Gaza, c'est presque un peu l'inverse. Ceux qui défendaient en ville, évidemment il y avait un déséquilibre des forces extrêmement important, sont au reculoir. Bon, tout ça, encore une fois, est lié à une conjoncture très particulière de Gaza. Il y aura forcément beaucoup de choses à apprendre, mais c'est un conflit qu'aujourd'hui nous regardons.
Mais c'est très intéressant, Gaza, la capacité de génération de force qu'a eu Israël. Donc ils sont capables de déployer une quinzaine ou une vingtaine de brigades d'activés de réserve pour aller dans un espace urbain où cette masse, elle est particulièrement importante, particulièrement nécessaire, avec un ennemi asymétrique et à la fois étatique et non étatique, qui est un peu difficile, mais qui a des capacités suffisantes pour qu'il faille vraiment de la masse et pas de la contre-insurrection seulement. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez en disant, il faudrait être capable de générer ce genre de masse pour ce genre de menace? Ou est-ce que, encore une fois, il n'y a pas de Gaza en France et c'est pas exactement la même chose. Et donc il y a des limites à l'observation du problème auquel Israël est confronté en ce moment.
C'est clairement de ce point de vue de la masse, il y a des limites à la comparaison avec la France. Israël est un pays qui défend sa survie. Je ne parle pas seulement depuis le 7 octobre. Israël est un pays qui défend sa survie, et sa défense est organisée structurellement, sa société est structurée autour de cet objectif. La France n'a pas de menace existentielle à ses frontières, donc c'est très difficile de faire cette comparaison et d'imaginer ce que devrait être la défense de la France dans le cas où nous aurions une menace existentielle à nos frontières, et à ce moment-là, quel serait l'état d'esprit général de la population française, sa mobilisation par rapport au niveau de ressources à attribuer à ses armées, à la réintroduction d'un service national qui serait universel de plusieurs années dans les armées, etc., et dans un pays qui a en plus un territoire qui est bien plus réduit que le nôtre, et qui fait que tout habitant d'Israël est à portée de la menace à ses frontières ou à Gaza. Donc c'est là une double, finalement, limite à la comparaison, c'est-à-dire qu'il y a une limite à la comparaison militaire, tactique pure, et une limite à la mobilisation de la société par rapport à ce type d'engagement qui encore une fois nous conduit et va nous conduire et doit nous conduire à regarder très attentivement ce conflit pour en dégager un certain nombre de conclusions qui seront importantes et intéressantes pour nous, et y compris sur la réserve. Je n'évacue pas complètement ce sujet des réservistes et de l'exemple qui nous est donné par l'armée israélienne, ni sur les modalités de son engagement, mais en étant très conscient des limites, y compris sociales, sociétales et stratégiques, de la comparaison entre nos deux pays.
Oui, mais il y a aussi un sujet qui est très opérationnel, de combat en zone urbaine, de combat en milieu urbain, de la capacité à opérer dans ce contexte-là et à s'imposer et imposer sa supériorité dans un environnement technique moderne. Et ça, c'est forcément, ça pose des questions. Ça fait assez longtemps que les armées françaises n'ont pas vraiment fait la guerre en ville de la manière dont Israël est en train de le faire. Et du coup, ça pose la question de comment est-ce qu'on est capable ou pas de développer, de le faire s'il faut le faire.
Oui, c'est clair. Enfin, ça rejoint le ce que je vous disais sur le fait qu'il faut que nous regardions ces modalités et la façon de faire, mais en étant conscient des limites et sans polémiquer excessivement quand vous dites à la façon d'Israël, je pense que la position politique de notre pays aujourd'hui sur la façon dont le rapport de force est exploité par l'armée israélienne à Gaza et notamment la question, l'emploi des feux d'appui, etc., et pas non plus forcément le modèle de ce que nous voulons faire ou nous sommes prêts à faire dans un conflit qui, encore une fois, est dans des conditions géopolitiques, sociales, très très difficile à imaginer pour nous, parce que nous sommes dans une situation géopolitique et stratégique qui est très différente. Maintenant, le combat en localité et en zone urbaine de l'armée de terre française, ça c'est un vrai sujet. Mais je reviens sur le parallèle Ukraine-Gaza et justement l'intérêt que nous aurons à regarder les deux. Un conflit dans lequel l'offensive va plutôt éviter les zones urbanisées, mais on voit combien cette offensive est quasiment rendue impossible compte tenu de cette fameuse transparence du champ de bataille qui peut être acquise. Et par ailleurs, une offensive qui est justement menée en zone urbaine avec une question de coût, efficacité, légitimité qui sera à évaluer, mais qui ne permet pas de profiter de cet effet d'acquisition de la transparence du champ de bataille qui pourrait être celui des armées modernes.
Enfin, j'aurais aimé terminer par des perspectives peut-être stratégiques un peu plus larges et le rôle de l'armée de terre dans un certain nombre de champs, d'espaces, notamment le premier qui vient en tête, c'est évidemment l'Afrique, puisque c'est un espace où on est en phase de retrait, en tout cas d'un certain nombre de régions. Alors le paradoxe étant que vous êtes issu de l'infanterie de marine, c'est-à-dire d'unités qui ont une longue habitude, une longue histoire de déploiement et d'intervention dans ces zones-là, et c'est comme vous l'avez fait vous-même. Voilà, maintenant il s'agit de se revenir assez largement en France et malgré tout de maintenir une capacité à intervenir. Comment est-ce que vous envisagez le rôle spécifique de l'armée de terre sur le continent africain dans les années à venir, disons?
Je pense que le défi pour l'armée de terre dans son engagement en Afrique dans les années à venir est assez semblable à celui qui est dans les autres espaces, c'est-à-dire c'est une question d'adaptabilité. Je vous disais tout à l'heure combien ma lecture de des espaces dans lesquels l'armée de terre a à produire des effets stratégiques, je sépare un peu entre l'espace national, sur lequel il y a un certain nombre de types de missions, de défense, de protection, de souveraineté, de contribution à l'esprit de défense, un espace de solidarité stratégique en coalition, qui pourrait aller jusqu'à un engagement en haute intensité, plutôt Europe et Proche et Moyen-Orient, compte tenu de nos accords de défense, et qui sont des espaces dans lesquels nous pourrions être entraînés dans des conflits et des engagements militaires éventuellement non choisis, compte tenu de nos liens d'accords de défense. Et puis un espace qui englobe l'Afrique, mais plus large, dans lequel l'enjeu est plutôt une question de partenariat stratégique de long terme. Et donc le défi qui est posé à l'armée de terre dans ces espaces est celui finalement d'une capacité d'intervention ou d'action qui soit adaptée et qui soit agile. De façon à probablement une des questions qui nous est posée par l'évolution de la situation en Afrique, c'est celle de notre capacité à nous adapter à l'évolution de la situation de manière rationnelle, sans nous trouver emprisonnés par éventuellement des questions plus organiques, c'est-à-dire de base, de points d'appui, et d'aller vraiment sur la question d'un engagement qui puisse être adapté aux besoins du moment, pays par pays, pour répondre à une question et un besoin. Donc quitter l'aspect organique un peu statique et permanent pour aller vraiment vers une dimension plus adaptée et adaptable. Est-ce que c'est facile pour pour l'armée de terre française? À la fois oui et non. Oui, parce que finalement, c'est un peu là le cœur de l'esprit et du style français depuis longtemps, et que de s'adapter, de pouvoir être souple et s'adapter aux partenaires. Non, parce que finalement, c'est vrai que d'un point de vue structurel et pour prévoir les choses et les préparer, c'est plus facile d'avoir des choses assez prévisibles, des relèves bien prévu à l'avance, d'envoyer des unités qui correspondent parfaitement au dimensionnement des unités telles qu'elles sont en France, etc. Donc l'enjeu pour les années à venir est bien d'arriver à mettre sur pied un dispositif qui soit, et donc une organisation interne de l'armée de terre qui soit le plus souple possible, de façon à pouvoir faire les allers-retours, les adaptations qui seront nécessaires en fonction d'un dialogue avec chacun des partenaires. Ça, c'est vrai pour l'Afrique, mais c'est vrai pour tous nos partenaires ailleurs.
Ce que j'allais dire, c'est ça pose la question aussi de l'Indo-Pacifique, qui est évidemment une zone qui monte stratégiquement et pour laquelle, spontanément, c'est plutôt éventuellement d'autres armes qui sont concernées. C'est plus naturel pour les marins, pour les aviateurs, ces déploiements très loin et cette inclusion, disons, dans la stratégie Indo-Pacifique de la France. On peut dire, par exemple, c'est un problème que l'US Army se pose depuis très longtemps, de savoir quelle est la place d'une armée de terre dans cet environnement, dans cet espace, aux caractéristiques géographiques particulières, etc. Voilà, c'est la même philosophie qui vous guide, disons, pour un théâtre comme l'Afrique et pour un théâtre émergent comme l'Indo-Pacifique.
Alors là aussi, oui et non. Oui, parce que c'est une notion de souplesse, d'adaptation, d'agilité, de partenariat à nouer et à faire vivre en fonction des besoins de chaque partenaire et d'adaptation dans le temps, sont des points communs. Non, parce que pour le Pacifique, d'abord nous sommes une nation du Pacifique. Donc, voilà, première mission de l'armée de terre, c'est de contribuer à la souveraineté du territoire national dans le Pacifique. J'inclus le sud de l'océan Indien, la Réunion avec la Réunion et Mayotte, le Wallis, Futuna, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française. Et donc le fait de contribuer à la souveraineté de ces territoires, à la contribution à l'esprit de défense sur ces territoires, etc., c'est très important. Et puis, finalement, il y a des actions dans lesquelles l'armée de terre est très attendue et peut contribuer de manière importante avec les voisins immédiats. Alors, les voisins immédiats dans le Pacifique, c'est relatif, mais enfin, les petits États insulaires qui sont les voisins de ces territoires, ont une attente importante, notamment pour la réaction aux catastrophes naturelles, ce qu'on appelle le HADR. Il y a là un moyen d'avoir une coopération avec eux qui... Bon, bien sûr, l'armée de terre a besoin d'un médium pour se déplacer via la marine ou via l'armée de l'air sur ces territoires, mais peuvent y contribuer de manière importante. Les partenariats avec des grands pays de la région comme l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Corée sont des dimensions importantes aussi de cette stratégie générale. Et puis finalement, sur cette question de l'Indo-Pacifique, en cas de conflit ou de montée de tension importante dans l'Indo-Pacifique ou dans le Pacifique, on peut imaginer que les États-Unis y concentreraient une part importante de leurs moyens. Et finalement, probablement, le rôle des armées françaises et de l'armée de terre française serait celle de la couverture ou de responsabilité accrue dans des espaces qui auront... dont les forces américaines se seraient davantage retirées et finalement rejoindre les zones d'engagement ou d'action ou de déploiement qui sont plus traditionnelles pour les forces françaises de l'Europe, de l'Afrique, du Proche et Moyen-Orient, de l'océan Indien.
Donc une complémentarité avec l'allié américain qui permet...
Oui, dans le sens où, enfin, je prenais l'exemple de l'Europe, si les Américains retiraient un certain nombre de forces d'Europe parce qu'ils estiment qu'il faudrait les concentrer dans le Pacifique, il est clair que la responsabilité des Européens au sens large, et donc de la France au premier rang, serait d'accroître leur coopération militaire, voire leur puissance militaire, de façon à contribuer davantage à la défense collective, les Américains étant moins présents.
Oui, mais ça, c'est la perspective. Et en même temps, cette question de l'Indo-Pacifique, c'est en même temps sur un temps très long et on a peur que ça se précipite rapidement. Vous pensez qu'on y est prêt ou qu'en tout cas on s'y prépare suffisamment à cette perspective de pallier un éventuel éloignement, disons, des Américains du théâtre européen ?
Oui, il me semble que la France, de manière très constante, milite pour une prise de conscience de ses partenaires européens sur le fait qu'il est primordial que nous prenions une part importante à notre défense collective, de façon à ne pas forcément dépendre de nos alliés ou exclusivement de nos alliés. Tout ce que propose et tout ce que fait l'armée de terre française dans ce domaine-là, et notamment compte tenu des orientations et des moyens et des ressources et des décisions prises pour la loi de prévention militaire, me semble aller dans ce sens de permettre une forme de consolidation, de crédibilisation d'une autonomie, en tout cas d'une capacité d'action des Européens pour eux-mêmes, bien sûr en complément des forces américaines, mais tout ça me semble aller dans ce sens général.
Merci beaucoup, Général Schill, pour nous avoir reçus et pour cet entretien.
Merci à vous.
C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon, comme notes et appréciations sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.